On avait tellement réglé de crise, il y avait tellement eu une atmosphère assez difficile qu'à un moment donné, ça finit par te rentrer dans le corps. Et puis, j'avais vraiment l'impression que j'ai frappé un mur, malheureusement.
À l'émission Conversation secrète avec notre collègue Paul Arcand, hier, diffusée à TVA, l'expert de Montréal, Denis Coderre, a dit d'abord que ça lui a fait très, très, très mal, cet échec à la mairie, lors des dernières élections municipales.
Bien, on peut le comprendre. Hein? Ça fait, écoute, ça fait depuis quoi? 90 qu'il est dans le paysage politique d'une façon ou d'une autre. Il était tout jeune et il s'impliquait déjà comme militant. Ce gars-là a la politique dans le sang. Et là, comme il a dit, il a frappé un mur. On peut comprendre qu'au, juste à un niveau bêtement humain, ben ça fesse. Sauf que, tu sais, moi, le truc que je ne m'explique pas, c'est que le Denis Coderre de début de mandat a été complètement différent du Denis Coderre de la fin du mandat, Paul. Au début, jovial, optimiste, positif. À la fin, bien souvent, je te dirais, grognon, bougonneux. Et il y avait quand même bonne presse au début du mandat. Là, t'sais. À un moment donné, bang, il y a eu une cassure. Là, on sait que dans sa vie personnelle, il y avait des problèmes. Là, son fils, on sait la saga là, qui dans laquelle il a été impliqué. Peut-être qu'il y a ça. Mais moi, je te dis, ça reste encore un mystère. Pourquoi est-ce que Denis Coderre semble avoir perdu à un moment donné un certain gouvernail, je te dirais, et toute la gestion de la saga de la Formule E, qui aurait pu, à mon sens, être mieux expliquée et aussi moins cachée, moins obscure, ça a fini par y nuire, et un vieux routier de la politique comme lui, j'ai jamais compris qu'il n'a pas compris ça.
Exactement. T'as raison de souligner que le tapis a commencé à lui glisser sous les pieds à cause de cette cachette des billets offerts gratuitement pour la formule électrique. Ça, comme on dit en bon français, ça a stallé pendant une couple de jours et puis ça a pris de l'ampleur, puis de l'ampleur.
Pendant tout l'été. Pendant tout l'été, c'était un sujet parce que, regarde, il y avait des cachettes, il y avait des ondes d'ombre, il y avait de l'opacité, etc. Et quand les gens posaient des questions, que ce soit l'opposition ou, oublie pas, pas juste les médias, mais les citoyens aussi, les citoyens riverains du fameux circuit de Formule 1 qui posaient des questions, tout le monde se faisait rembarrer. C'est comme si c'était une évidence divine que ce Grand Prix de Formule 1, c'était une bonne chose pour Montréal. M'excuse, avant que la Formule 1 arrive, là, il y a à peu près personne hors du monde de la course automobile qui savait c'était quoi.
Ah, ben en plus, c'est de la manière que ça a été vendu, ce projet-là. Tu sais, on s'est aperçu après qu'il y avait peut-être moyen de faire quelques modifications puis d'utiliser le circuit Gilles Villeneuve actuel.
Regarde, moi, là, je connais des journalistes, d'anciens journalistes qui ont couvert la Formule 1 et j'ai fait des appels pendant l'été. Et regarde, ben, je me suis fait expliquer pourquoi c'était pas au circuit de Formule 1, là, sur la piste Gilles Villeneuve. Comment ça se fait que la mairie, comment ça se fait que le promoteur Evenco n'a pas fait ce travail-là de pédagogie? Parce qu'il y avait des raisons valables, des raisons techniques qui ont rapport avec la façon dont les voitures sont construites, conçues en Formule 1, mais personne n'a expliqué. Personne n'a expliqué pourquoi c'était... Ah, tu sais, on a une piste de course.
Ouais.
Pourquoi c'est au centre-ville? Pourquoi tu viens faire suer tout le monde avec un autre chantier, disons?
Il y a eu le prix des murets, tu te rappelles?
Ben, le prix des murets.
Pour mettre Montréal. Là.
Pourquoi on n'a pas loué ceux de la Formule 1?
Ouais.
Bon, mais bref, un politicien d'expérience comme ça qui n'a pas compris ça, moi, ça m'a fasciné. Mais ce qui est intéressant aussi, Paul, c'est ces petites graines que M. Coderre a laissées tomber de son sac. Quant à peut-être retour vers le futur en 2020.
Ouais, moi, je suis à peu près certain. Là. Toi, tu es trop jeune. Moi aussi, d'ailleurs, je suis trop jeune. Je devrais m'inclure là-dedans. Jean Drapeau avait été battu par Sato Fournier contre toute attente. Le jeune Jean Drapeau fougueux qui, avec Pacific Plant, avait décidé de nettoyer la ville, se fait battre à l'élection suivante par Sato Fournier. Mais après ça, Drapeau est revenu pour à peu près 30 ans.
Et il est revenu plus fort.
Bien, plus fort que jamais.
Mais regarde,
exactement.
Moi, je doute pas que M. Coderre a la politique dans le sang et qu'il aurait peut-être envie de revenir, mais je peux me tromper, ça va beaucoup dépendre de Projet Montréal et de la mairesse Plante. T'sais.
Mais moi, je le crois. Mais...
Est-ce que la petite grogne qui circule aujourd'hui face à Projet Montréal va être un raz-de-marée avant 2020? C'est loin, c'est très loin. Denis Coderre a bien des qualités, bien des défauts. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas se représenter une deuxième fois et perdre.
Non, ça serait. T'as raison, c'est là le plus gros prix à payer, ce serait ça. Mais je te relance, moi, sur Coderre. Je l'écoutais hier avec Paul, et puis il a dit c'est fini le fédéral, en termes de politique.
Oui.
J'ai donné au fédéral, j'étais ministre, ben là, c'est fini tout ça. On n'a pas eu de réponse claire, moi, je trouve, hier soir, sur si les. Comment je te dirais ça? Si les étoiles et les planètes sont réunies sur la scène provinciale.
Oui.
Lui, son ambition, dès son plus jeune âge, c'était de devenir premier ministre. Tu ne peux pas devenir premier ministre d'une ville, mais tu peux devenir premier ministre du Québec. Non, mais je te lance
oui,
ça comme ça.
Oui, bien, regarde, voici mon bug. Quelles sont ses assises au Parti libéral? Et tu as perdu Montréal. Donc, le lustre que tu avais politiquement est difficile. Mais en même temps, c'est un organisateur formidable. Peut-être qu'il pourrait décider s'il y a une défaite des libéraux au mois d'octobre,
mettons,
des libéraux provinciaux. Il pourrait décider que... Il se lance. Mais le territoire, je pense qu'il connaît le mieux dans l'immédiat, c'est Montréal. Puis pour ce qui est de la famille fédérale, écoute, le fameux tweet qu'il a envoyé quand Énergie Est quand on a annoncé qu'Énergie Est ne se ferait pas, ben dans l'Ouest canadien, ça a été mal reçu. Il y a eu aussi des passes d'armes avec l'équipe de Justin Trudeau. Donc, je ne suis pas sûr qu'au fédéral, il est si bienvenu que ça. Hey, l'autre truc, avant qu'on se laisse, juste souligner, je pense qu'on a un petit passage qui concerne le fils de M. Coderre.
Mon fils vient me voir, puis vient me parler, puis on a pleuré ensemble. Il dit, papa, il dit, je veux pas être avec toi parce que je veux pas te nuire. Ça prenait peut-être un coup de semonce comme ça pour qu'il puisse le replacer. Je m'en suis voulu, là. C'est venu me chercher, puis c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a brisé en moi.
Eh hey boy! Écoute, je l'ai dit à ton micro, hein, à l'époque, quand l'histoire de son fils est sortie, ça a été médiatisé. Moi, je te dirais ça.
Hey, parce que c'est le fils
ben
du
oui,
maire.
Même condition, même infraction.
Bien sûr.
Si son père s'était appelé Roger Tremblay, ça n'aurait jamais été médiatisé. Quand tu regardes, disons, la nature de l'infraction, et je suis pas en train de dire que les médias n'auraient pas dû en parler, tout ce que je dis, c'est qu'il y a un prix plus élevé à payer, un prix injuste quand tu es dans l'orbite d'une personnalité publique. Puis c'est ce genre, le prix, c'est ce genre de médiation-là. Ce que je voulais te dire, c'est on a tous les Québécois qui nous écoutent connaissent des fils puis des filles qui se sont éloignés. C'est pas le propre d'un homme comme M. Coderre. Moi, ce que j'espère, c'est... T'sais, c'était pas de la grande criminalité. J'espère que ce jeune homme-là, j'espère qu'il va se relever en pleine possession.
OK, un petit mot sur l'annonce officielle de Mme Julie Boulay.
Ouais.
Mais ça fait longtemps qu'on s'attendait à ce genre d'annonce. Elle ne se représente pas.
Écoute, t'as raison. On s'y attendait. Puis il y a comme une tendance chez les libéraux. Hein. Y a bien des gens qui ne se représentent pas. Ce qui est un peu loufoque, c'est qu'on sait qu'il y avait eu des jeux de coulisses et qu'elle s'est battue pour être la candidate là, de la circonscription remaniée dans cette région-là. Puis finalement, elle ne se représente pas. Donc, quelque chose d'un peu loufoque. Sauf que c'est vrai qu'il y a comme une usure du pouvoir chez les libéraux, Paul. Mais dans le cas de Mme Boulay, je lisais, elle est là depuis 2001.
Oui.
Il y a aussi l'usure personnelle. Je pense que dans certains cas, il y a des gens qui ne veulent pas se retrouver dans l'opposition. Mais, hey, Paul, depuis 2001...
Elle a dit qu'elle n'avait plus l'énergie, la fibre.
On a tendance à l'oublier un peu quand on analyse ça. On voit juste le côté politique et le côté humain. Et Paul, depuis 2001, là, j'ai vendu 2 condos. J'ai acheté et revendu un chalet. J'ai acheté une maison. J'ai eu un enfant qui est un préado. J'ai travaillé dans 2 quotidiens à Montréal, puis en 2001, je faisais avec Jean Lapierre et CKC ce que je fais avec toi.
Hey, c'est incroyable.
Ce que je veux dire, c'est que...
Non, mais c'est vrai.
Tu comprends? Il y a aussi ça. Je pense qu'il y a bien des libéraux qui ne veulent pas aller dans l'opposition, même si les sondages sont un peu moins pires qu'avant. Mais à un moment donné, tu te dis, j'ai donné, comme dans le cas de Mme Boulay.
Merci et à demain.